Bonjour et bienvenue sur IDFM Radio 98 FM. C'est l'émission Femmes en Lumière qui commence, Laetitia et Myriam avec vous. Une émission qui vous présente des femmes de tous horizons et des personnalités atypiques, toutes plus inspirantes les unes que les autres. Via un témoignage à cœur ouvert, ces femmes de notre région et d'ailleurs vous partagent ici leur histoire.
Oui, Laetitia, et aujourd'hui dans l'émission Femmes en Lumière, nous avons l'immense plaisir d'accueillir Clara Brachet, une femme qui a vécu mille vies de chat, on pourrait dire, voyagé à l'autre bout du monde pour en revenir avec un trésor, et qui dit s'être longtemps cherchée, jusqu'à ce qu'elle découvre le milieu associatif et notamment le domaine de la collecte de fonds ou fundraising, comme on dit aussi parfois aujourd'hui en anglais. Et c'est là que de partenariats signés, en levée de fonds créés, Clara se met à rêver. Et si on pouvait apporter un peu de douceur, de lien humain et de dignité aux adultes gravement malades, voire en fin de vie? Et c'est de cette idée que naît Ambulance des rêves, qu'elle cofonde en 2022. Le projet ? Réaliser le rêve de ces adultes, souvent oubliés. Une initiative profondément bienveillante et pleine d'humanité qui nous a particulièrement touchés. C'était donc une évidence pour nous de la recevoir dans Femmes en Lumière.
Bonjour Clara.
Bonjour à toutes les deux. Merci pour cette très belle introduction.
Eh bien, nous sommes heureuses de te recevoir aujourd'hui. Alors, après l'introduction de Myriam, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots?
Alors donc je suis Clara Brachet, j'ai 42 ans depuis une semaine.
Oh, joyeux anniversaire. Mais
bon anniversaire.
J'ai 42 ans, je vis à Annecy. Et puis je suis la maman d'une petite fille qui a 5 ans qui s'appelle Thelma, et je suis la cofondatrice donc de l'association Ambulance des rêves qui réalise les rêves des adultes en fin de vie, et j'en suis maintenant aussi la déléguée générale. Voilà.
Alors, on a entendu Myriam nous dire que tu as eu mille vies, que tu as beaucoup voyagé. Est-ce que tu peux nous en dire plus?
Un vrai chat, oui. effectivement, j'ai eu plusieurs vies. J'ai eu une vie quand j'étais plus petite fille. J'étais une petite fille qui avait pas mal de peur et d'angoisse. J'avais peur de quitter mes parents, donc j'avais du mal à aller par exemple chez les amis pour dormir, des choses comme ça. Et puis j'ai eu un changement. J'ai eu un peu une révélation grâce à une thérapie, je pense, plus jeune. Et donc après j'ai pris un peu le contre-pied, et c'est là où notamment je suis partie vivre à Buenos Aires.
En Argentine.
En Argentine, un vrai coup de cœur pour ce pays. C'était, en fait, l'histoire est assez rigolote, c'est que je faisais j'étais en sciences politiques, à la faculté de sciences politiques, et ils nous proposaient Bilbao ou Buenos Aires.
Donc Bilbao en Espagne, hein, nord de
exactement.
L'Espagne.
Exactement. Et puis moi, je me suis dit, je sais pas, ça a l'air vachement sympa, Buenos Aires. J'étais supra naïve.
Tu avais quel âge?
J'avais 20 ans. Même pas, je crois que je les ai fêtés là-bas. Attends. Non, j'avais 20 ans et j'ai eu mes 21 ans là-bas.
Ok.
Et donc...
Ouais, super jeune, quoi.
Super jeune. Très perché, un peu à côté de la réalité, parce que la situation économique du pays était très, très compliquée. Il venait d'y avoir une énorme crise financière. C'était... limite dangereux.
Okay.
Et je suis partie avec mes valises en me disant ça va être sympa. J'avais même pas vraiment calculé que l'accent était un peu différent, enfin vraiment très naïve, mais en même temps envie d'expérience aussi. Donc ça, c'était assez magique. Et j'ai pas regretté, parce que c'était un énorme coup de cœur, même si j'étais confrontée à pas mal de difficultés, mais je ne les voyais pas. Et j'ai eu un tel coup de cœur que j'y suis retournée en fait 4-5 ans plus tard. Vivre pour encore... J'y me suis installée pendant 2 ans.
D'accord, donc en fait tu as fait un premier voyage dans le cadre de tes études.
Voilà.
Tu y es restée combien de temps?
Un an.
Et quand même, hein.
Ouais, un an.
Tu faisais quoi là-bas?
La fête?
Non.
C'était pour moi une année d'expérience. C'était j'ai appris quand même l'espagnol, enfin l'argentin, parce que c'est un espagnol un peu particulier. J'ai beaucoup visité le pays. J'ai eu cette chance assez incroyable de pouvoir aussi prendre pas mal les taxis. À l'époque, le peso c'était très bas, donc je prenais pas mal les taxis, donc je faisais beaucoup parler les taxistas pour qui me racontent leur parcours, et souvent leur parcours était complexe. Donc j'ai vraiment, alors je sais pas si j'ai une année très positive au niveau de sciences politiques, mais en tout cas au niveau de moi, l'enrichissement personnel, il était c'était incroyable.
Du coup tu n'y allais pas forcément pour travailler ou
non,
avec
non,
un
c'était vraiment dans le cadre d'Erasmus, c'était l'école en fait, c'était
soit
et l'ambiance était absolument incroyable, et puis j'ai je me suis vraiment sentie comme un poisson dans l'eau, c'était
oui,
vraiment
c'est ça,
dingue.
C'est quoi qui fait le coup de cœur?
Ouais, c'est ça.
Écoute, pour l'anecdote, j'étais avec deux autres Français. Ça faisait une semaine qu'on était à Buenos Aires. C'était quand même très très particulier. Je comprenais rien très clairement. Mon niveau d'espagnol c'était CP CE1. Et en fait, on était dans une espèce de café sur une place, et j'entends des Argentines parler derrière moi. Et je suis sur cette place, il y a des micros, il y a des bus qui passent hyper rapides, ça pue en plus parce que c'est hyper pollué. Et j'adore, c'est génial, c'était complètement dingue. Et ce qui est très drôle, c'est que je sais exactement où j'ai eu ce coup de cœur, où je me suis dit vraiment j'adore cet endroit, alors que ça pouvait ne pas être le cas. Hein. Et 4 ans plus tard, j'y suis retournée et je me suis amusée à retourner dans ce. Et je me suis dit, mais comment j'ai pu avoir un coup de cœur pour ce pays,
dans
cet endroit?
Ah, tu retrouves pas la.
Parce que,
la
non, je l'ai eu 4 ans plus tard, je me sentais encore très bien, mais je me suis dit, c'est pas le plus bel endroit.
Ouais. Oui, pas cet endroit-là.
Tu vois, pas cet endroit-là.
Il s'est passé quelque chose.
Il s'est passé un truc. Ouais. Et en fait, c'est comme si je retrouvais des racines. C'est très bizarre. Alors, évidemment, je ne suis absolument pas argentine. Et je sais que mes parents sont venus me voir à Noël. Et ils étaient bluffés. J'étais un poisson
personne,
dans l'eau.
Ouais.
C'était chez moi. C'était tout me paraissait simple.
Oui,
et pourtant c'était
l'impression d'être à la maison. Quoi.
Ouais. Et pourtant on a eu des
moments passés.
C'était ouais. On n'arrivait pas à trouver d'appartement pour se loger avec mes amis. C'était quand même tendu. Hein, mais il y avait un peu une tension, mais probablement le fait que je comprenais rien, je voyais pas forcément ce qui se passait, donc je sais pas, je suis dans une petite bulle. Donc c'est ma vie de chat dans une bulle, un peu perchée.
Et donc 4 ans après, tu y retournes.
4 ans après, j'y suis retournée, et ensuite, 4 ans après, j'y suis retournée, parce que j'étais tellement fan du pays que je ne me voyais pas ne pas y retourner, en fait. J'ai pleuré pendant 6 heures dans l'avion de retour, quoi.
Oh,
mais j'étais au bout de ma vie.
Déchirement,
complètement. Et donc, j'y suis retournée. Et là, c'était plus Erasmus, donc c'était fallait faire un peu les moyens du bord, fallait trouver du boulot, fallait avoir un petit appart. Et là, j'étais plus confrontée à une réalité. On va dire que la rêveuse s'enracinait un petit peu plus, parce qu'il fallait quand même avoir un peu plus de
Travailler ou en tout cas avoir
travailler. Et puis la conjoncture était toujours très difficile, donc fallait pas un boulot, mais 2 voire 3.
Ah oui, d'accord. Et alors, là, ce qui paraît, tu découvres le crowdfunding. Et en quoi ça a été une révélation pour toi?
Alors, je l'ai pas découvert là. Je l'ai découvert plus tard, dans ma 3e vie de chat.
Ah, ok.
Là, j'ai dirigé un centre de médecine douce. J'ai fait des trucs.
Ça, c'est en Argentine, toujours. Hein.
Voilà, exactement. Et puis, la conjoncture a fait qu'à un moment, il fallait rentrer. Donc, je suis rentrée. Et c'est là où, effectivement, je découvre le métier de responsable de la collecte de fonds et des partenariats pour des associations. Et ça fait totalement sens pour moi. Je me dis un peu comme Buenos Aires, c'est-à-dire que je me sens très à l'aise. Je commence à être bénévole pour une association qui s'appelle Make a Wish France et qui réalise les vœux des enfants gravement malades. Mmh. Et puis, en fait, il n'y a pas de poste de fundraiser, de responsable de la collecte. Et je fais un petit peu mon trou et en fait, je me fais recruter pour ce poste-là. Et puis, je vais y rester 3 ans, je crois, 3-4 ans.
D'accord.
Donc, chez Make-A-Wish. D'accord.
Ouais.
Pour réaliser les rêves des enfants malades.
C'est ça. Okay. Exactement.
Alors, donc là, tu nous as parlé, donc, de l'Argentine.
Mm-hmm.
Donc, on va essayer de le faire dans l'ordre parce que,
il y a beaucoup
de choses. Donc, on va rester sur la séquence voyage. Donc, Argentine. Donc, voilà, pendant les études, tu y retournes, tout ça. Et puis après, il va y avoir le Vietnam.
Exactement.
Donc, on part aux antipodes.
13 000 km de l'autre côté.
Voilà.
C'est
okay.
ça.
Alors, comment est-ce que tu te retrouves là-bas?
Alors, le Vietnam, c'est donc ma 5e vie, ou 6e, je sais plus. En gros, le Vietnam, c'est une rencontre. J'ai rencontré Charles, qui est devenu mon mari. Et en fait, lui, très rapidement, au bout de 3 mois, me dit... il avait fait une demande, moi je le savais pas, il avait fait une demande pour partir dans une filiale un peu de sa société au Vietnam, à Ho Chi Minh Ville. Et il, ça faisait longtemps qu'il attendait un retour, et il a eu le retour. Et moi, je commençais à le trouver très sympathique, et je me suis
dit... Oui, c'était le début de votre...
Oui, ça fait 3 mois, hein, donc oui. On n'est pas en train de se dire, je me barre avec oui. quelqu'un, on se connaissait à peine. Et au final... alors moi déjà d'une part je me suis dit évidemment c'est son projet et je sentais que c'était hyper important pour lui donc j'allais pas le freiner, lui il fallait qu'il parte, c'était son truc, mais moi je savais que bah je l'aimais bien donc
Alors juste excuse-moi je t'interromps mais juste pour qu'on comprenne la chronologie, là tu es en France dans ton travail actuel.
C'est ça, j'ai changé de je suis chez Fratelli mais on est en 2016.
D'accord.
2016. Et là je me pose la question. Finalement, il se trouve que c'est encore un peu long, la négociation, tout ça. Donc, on s'installe ensemble. Et puis, on fait un voyage au Vietnam. Et je le raconte d'ailleurs dans mon talk, ce qui est très rigolo, c'est que je me souviens, à Ho Chi Minh Ville, sur le scooter, parce que là-bas, tu conduis un scooter. Et heureusement, je conduisais déjà un scooter à Paris. Et je me dis, c'est vraiment, non, c'est pas pour moi. C'est trop de monde, trop de bruit, trop de, non, mince. C'est vraiment pas du tout ce à quoi j'aspirais. Ouais. Et puis l'intuition. Je me suis dit, non, mais il faut quand même que je vienne. Et je sentais que ça allait être difficile. Ça allait être l'opposé. En fait, c'est littéralement l'opposé de l'Argentine où tout me semblait facile. Là, tout a été compliqué. Mais, j'avais besoin de le vivre. Il fallait que je le vive. Et je pense que si je suis maman maintenant et si Ambulance des rêves existe, c'est aussi parce que alors, j'ai eu ce parcours vietnamien.
Oui, alors c'est ça. Alors voilà. Ça tu vas nous raconter parce que donc en effet, voilà, tu viens de le mentionner. Il y a ce petit trésor. C'est ce que je mentionnais tout à l'heure, cette petite fille, donc Thelma, 5 ans aujourd'hui, que vous adoptez. Alors malgré un parcours difficile, puisque ça se passe en plein Covid, ouais. avec une attente de près de 3 ans, enfin un truc absolument complètement...
C'est le lot de tous les parents qui adoptent, mais
ouais,
effectivement c'était...
Interminable, j'imagine qu'avec la conjoncture du moment...
Il y avait beaucoup c'était beaucoup d'incertitudes en fait, on n'avait aucune visibilité. Mais encore une fois, nous on avait un statut un petit peu différent, mais n'importe quel parent adoptant traverse ça, c'est l'incertitude et puis en fait t'as aucune idée de quand comment voilà c'est et des montagnes russes émotionnelles.
Oui, c'est très, ça très parce que aussi. Comment on vit cette attente là
tu l'as
vous pouviez la voir?
Non.
Vous
non.
pouviez pas
elle
la
était
voir
à 45 minutes de chez nous mais on a pas pu la voir avant 2 ans.
Donc là, vous êtes encore au D'accord. Vietnam, hein, qu'on le rappelle.
Oui, en fait, on a su qu'on pouvait pas avoir d'enfants au Vietnam, et on a lancé la procédure au Vietnam, et là, le Covid est arrivé. D'accord. Et en fait, le Vietnam, ça s'est passé un peu différemment qu'ici, mais ils ont fermé les frontières très très vite. Donc, ils ont été un peu protégés pendant pas mal de temps, jusqu'à ce que le dernier variant, enfin, pas le dernier, mais en tout cas,
de l'époque
arrive là, bon. C'était compliqué et effectivement les villes se sont fermées, les frontières, enfin les villes, les appartements, enfin tout a été fermé en très en lockdown très 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 dur et les administrations aussi, donc en gros ça n'avançait plus. Donc il y avait le temps, elle grandissait.
Mais oui, c'est
et
ça.
Puis, nous on n'était pas loin mais on pouvait pas la voir.
Quelle frustration quoi.
Et voilà, et puis on était certains de rien, donc c'était très très dur. C'était une époque c'était
bon. Mais vous tenez le coup et vous êtes au Vietnam et toi du coup tu as réussi à faire ta place et à t'acclimater.
Alors est-ce que je me suis acclimatée au Vietnam? Oui et non. Ça a pas été je te dis, ça a vraiment pas été comme l'Argentine où je me sentais comme un poisson dans l'eau. J'avais cette barrière de la langue, j'ai jamais réussi malheureusement à l'apprendre, ce qui fait que moi qui suis assez quelqu'un qui aime bien rencontrer, faire parler les gens, j'ai jamais réussi en fait à pouvoir connecter avec les Vietnamiens au final, et ça c'est un grand regret. Et surtout en temps de Covid où il se passait des choses, il y avait des choses très difficiles et je pouvais même pas vraiment ça, tu vois, poser ces questions là donc l'acclimatation a été difficile, mais j'ai beaucoup appris sur moi, j'ai beaucoup grandi. Et puis après effectivement le parcours a fait que pendant que on était dans ce parcours là moi j'ai découvert un article sur l'association Ambulance Vents, Ambulance des rêves aux Pays-Bas. J'ai contacté le fondateur, Kiz, qui m'a mis en contact avec des Français, dont Maxime, mon cofondateur. Et on a commencé un peu à travailler sur le sujet. Moi, je travaillais depuis le Vietnam.
Oui, parce que donc tu découvres que il y a ce concept-là qui existe pour les adultes.
C'est ça.
Ça existe aux Pays-Bas et tu t'empares de la question. Alors tu vas nous raconter un petit peu tout ça. Merci Clara, c'est le moment de faire une première pause musicale et on se retrouve juste après. À tout de suite. Star shining bright above you. Night breezes seem to whisper
I love you. Birds singing in the sycamore tree. Dream a little dream of me. Say nighty night and kiss me. Just hold me tight and tell me you'll miss me. While I'm alone and blue as can be. Dream a little dream of me. Stars fading, but I linger on, dear. Just craving your kiss. I'm longing to linger till dawn, dear. Just saying this. Sweet dreams, till sunbeams find you. Sweet dreams, I leave all worries behind you. But in your dreams, whatever they be, dream a little dream of me. Say nighty night and kiss me. Just hold me tight and tell me you'll miss me. While I'm alone and blue as can be. Dream a little dream of me. Stars fading, but I linger on, dear. Just craving your kiss. I'm longing to linger till dawn, dear. Just till sunbeams find you. Sweet dreams that leave all worries far behind you. But in your dreams, whatever they be, dream a little dream of me. But in your dreams, whatever they be, dream a little dream.
Vous êtes bien sur IDFM Radio.
Nous sommes de retour sur IDFM Radio dans l'émission Femmes en Lumière, l'émission qui met en avant des femmes inspirantes de notre territoire. Clara Brachet, cofondatrice et déléguée générale de Ambulance des Rêves, est notre femme en lumière du jour. Clara, alors tu as travaillé pour Make-A-Wish, comme tu nous disais tout à l'heure, qui réalise les rêves des enfants gravement malades. Comment t'es venue l'idée d'extrapoler ce concept aux adultes? Est-ce qu'il y a eu un événement déclencheur? Tu nous parlais de Maxime, par exemple, pendant que tu étais au Vietnam. Qu'est-ce qui s'est passé exactement?
Comme je disais, donc c'est la découverte d'un article sur Ambulance Vans des Pays-Bas qui fait ça pour les adultes, avec la mise à disposition d'ambulances. Et en fait, quand je travaillais chez Make-A-Wish France, je m'étais rendu compte qu'il y avait pas mal d'associations qui faisaient ça, et je sais qu'il y en a besoin. Mais il y avait beaucoup pour les enfants et pas pour les adultes. Et comme je le dis souvent, on s'arrête pas de rêver à 18 ans, donc ça m'a pas mal interpellée. Et quand j'ai lu cet article, j'ai eu cette petite intuition, encore une fois, de me dire, tiens, ça serait intéressant d'échanger avec ce fameux Keys. Et c'est là où il m'a raconté leur histoire. Ils ont, il faut imaginer, réalisé déjà plus de 24 000 rêves depuis 2007.
Okay.
Ils ont 13 ambulances en propre et ils font 13 rêves par jour, en moyenne, voire un peu plus.
Incroyable.
Donc c'est, c'est un peu nos maîtres Yoda. et au final, effectivement, Keys m'a dit que certains Français l'avaient contacté. Donc on s'est mis en lien tous. Et puis, il y a eu le Covid. Donc, arrêt.
Tout s'arrête.
Évidemment, parce que c'était pas le moment d'aller embêter les médecins et tout le personnel médical sur ces sujets-là. Et on a repris le travail, en fait. Maxime nous a recontactés. On est reparti avec Max, en septembre 2021.
D'accord. Et donc, le tout premier rêve, a été réalisé début 2023.
Voilà. On a mis un an, en fait, à dépasser tous les obstacles et les problématiques juridiques, puisque, notre particularité, c'est qu'on travaille avec des ambulances. En France, la loi autour des ambulances est très, très complexe.
D'accord.
Et donc, en fait, on a eu la chance d'être accompagné par un gros cabinet d'avocats, en pro bono, qui a arpé notre bouteille à la mer de demande d'aide et qui a accepté de nous soutenir pour nous aider à lever tous ces obstacles juridiques et à pouvoir effectivement faire notre premier rêve et le réaliser à Pâques 2023. C'est Karima qui, avec sa famille, est allée visiter Versailles.
Super.
Voilà.
Et alors, pile un an, donc la création de l'association se fait, le premier rêve. Aujourd'hui, vous en êtes à 65 rêves réalisé,
créé,
ah oui, ouais, ouais. Ah oui, c'est ça, c'est là toute la différence, voilà. Tu vas me dire 65 rêves créés et 44 réalisés. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer voilà, comment 45
45 réalisés, 3 en cours de création,
ouais. OK. Alors, quelle est la différence entre créer et réaliser?
Alors, en fait, pour nous, c'est important de parler de nos rêves aussi créés, puisque on s'adresse à des personnes très fragiles. On travaille avec les établissements hospitaliers, les unités de soins palliatifs notamment, Diakonès, Jeanne Garnier, essentiellement sur Paris.
Est-ce que ce sont des personnes en fin de vie, ou est-ce que ça peut être des personnes gravement malades et qui
Qui
pourraient s'en sortir?
On s'adresse à des personnes qui souffrent de maladies graves et incurables en phase avancée ou terminale.
D'accord.
Et là, comme
donc
on a des
partenariats,
voilà, comme on a des partenariats avec des unités de soins palliatifs, tu peux aller en soins palliatifs pour du répit, mais en règle générale, on s'adresse plutôt à des personnes qui sont là et on va dire c'est un peu la fin. Donc, et nous, on arrive et on leur propose un projet, et c'est quelque chose qui peut leur faire du bien et aussi aux proches, aux aidants, puisqu'ils sont quand même souvent exempts d'avoir été les aidants pendant quelquefois des années.
Bien sûr.
Et c'est on vient, et nous on appelle ça la récolte de rêves. C'est notre première étape, c'est là où commence la création. La récolte de rêves, c'est un binôme de bénévoles qui vient dans la chambre d'hôpital, à la rencontre du rêveur ou de la rêveuse, le faire parler de son rêve, définir les contours de son rêve et d'imaginer cette journée rêvée. Ensuite, nous, on a des médecins de l'association qui vont valider la faisabilité du rêve avec le médecin du rêveur, parce que c'est quand même... Il y a la technique derrière, quelquefois.
Oui. Donc, il y a une discussion avec le corps médical aussi.
Et nous, on lance la création du rêve. On met en moyenne une semaine entre le moment où il nous est remonté et le moment où on le réalise.
Une semaine, c'est court.
C'est très, très court. Donc, ça doit aller très, très vite.
Okay. Donc, ça, c'est le rêve créé.
Donc, ils sont créés. Et quelquefois, c'est pour ça qu'on a 45 rêves réalisés, 65 rêves créés. Il y en a 20 qu'on a créés. On a les rencontrés ou l'a rencontré. Mais on n'a pas pu le réaliser parce que son état s'est détérioré.
D'accord.
Ou décès. Mais on sait, et le personnel médical nous le dit, que cette partie-là est aussi importante, oui, puisque, les rêveurs se projettent. Et même si ils vont pas forcément dans la capacité de le réaliser, les retours sont quand même assez positifs du personnel soignant, parce que ils sortent des murs, on va dire, ils s'imaginent. On avait un rêveur qui, on était à Salle, il y arrivait, mais il est malheureusement décédé trop tôt. On devait l'emmener à Versailles, il parlait que de ça, hein, ça avait redonné
du
baume au cœur, et c'était voilà, donc c'était très important. C'est pour ça que c'est important aussi pour nous.
Bien sûr.
Ils sont là, ils existent, et on les a créés, donc et ça a apporté déjà une petite bulle de bonheur. Et ensuite, effectivement, l'idéal, c'est de le réaliser.
Et alors, qu'est-ce que ça nécessite comme organisation? Tu nous parlais des médecins, tu nous parlais que ça se fait en une semaine, mais comment est-ce que tu fais pour les réaliser concrètement sur le terrain?
Alors, donc là, je vous ai parlé de la récolte de rêves. Récolte de rêves, c'est la première étape. Enfin non, la première étape, c'est quand un correspondant de l'établissement partenaire m'appelle ou appelle ma collaboratrice Lorraine et on prend les rêves. On valide déjà dans un premier temps la faisabilité avec nos médecins référents qui échangent avec le médecin du patient pour vérifier, pour récupérer les données médicales auxquelles nous, évidemment, on n'a pas accès. Et ensuite, nous, on met en place ce binôme de récolteurs de rêves. Ils y vont après débrief du rêve. Et là, ils vont nous donner les éléments. Et par exemple, ça peut être une visite au Louvre. Voilà, ça peut être quelque chose comme ça. Nous, tout de suite, en fait, on va essayer de contacter le Louvre pour savoir si on peut faire une visite chez eux. Et donc, leur dire, c'est fauteuil, pas fauteuil, brancard. Voilà, sachant que nos rêveurs sont souvent très fragiles, souvent ils peuvent être en brancard. Une visite d'un musée, à plusieurs reprises, les musées nous ont dit « Ok, mais vous venez... » quand c'est fermé.
Oui, voilà.
Mais en amont, voilà. Pour que, voilà,
pour
que
vous adaptez.
Voilà. Donc ça, c'est génial.
Est-ce que c'est possible, par exemple, parce que là, tu nous as donné deux exemples de musées, donc Versailles et le Louvre. Est-ce que tu as des choses également dans les airs qui se font?
Alors, on n'a pas eu dans les airs, si on avait une demande pour une montgolfière, une fois, c'est un rêve assez incroyable. On a des choses, en fait, souvent assez simples. des choses. Ce qu'on s'est rendu compte, c'est que les rêves, quand vous êtes confronté à la finitude et à la fin de vie, ce qui est important, c'est pas forcément des choses instagrammables. C'est plutôt d'être auprès de vos proches, dans un lieu qui vous est cher, et de partager un moment. Ce que nous, on peut faire tous les jours sans nous en rendre compte.
Oui, finalement. Oui,
voilà. Et eux, c'est leur rêve. C'est, on a eu un rêve très beau récemment. C'était une dame qui voulait juste retourner chez elle, quelques heures, manger un bouillon, voir un film qui était un film, voilà, qui était fort pour cette famille. Donc tous ensemble. Et c'était juste ça. Ce qui est encore une fois quelque chose qu'on peut faire nous tous les jours.
Ouais.
Et ça peut être mettre une dernière fois évidemment les pieds dans l'eau à la mer, ça c'est des rêves assez récurrents. Ça peut être passer une journée dans un parc, dans la nature, beaucoup beaucoup de nature. Retourner dans sa maison, comme je vous ai dit, ou une maison d'enfance, ou mais finalement des choses assez simples.
Ouais, des choses simples et voilà, on voilà. oublie, on se rend pas compte à quel point c'est précieux quoi. Hein, finalement.
Exactement.
C'est ouais. Et c'est alors bien sûr, donc on a bien entendu hein, voilà, Maxime Pays-Bas tout ça, mais dans le fond, Clara, tu vois, c'est quoi le déclencheur? Qu'est-ce qui fait qu'on se jette comme ça dans ce genre d'aventure?
C'est une très bonne question et je pense que je l'ai j'ai eu la chance, on en parlait toutes les deux récemment, de faire un talk pour le TEDx de La Rochelle et ça m'a permis justement de me poser les bonnes
questions. Tu vas nous raconter ça, bien sûr, tout à l'heure. On va te poser plein de questions là-dessus. Mais dans le fond, tu vois.
C'est complexe parce qu'en fait, je pense que il y a encore peu de temps, j'aurais été pas tout à fait capable de t'y répondre là-dessus. Parce que j'ai vu la lumière, parce que ça m'a plu, parce que ça m'a parlé, parce que c'était... Puis l'intuition, moi, j'écoute beaucoup mon intuition. C'est-à-dire, je me vois encore, hein, quand je lis l'article, je me vois, je sais où j'étais quand j'ai lu l'article.
Ouais.
Mais je pense que j'ai un parcours aussi de rêveuse. Voilà, j'ai vécu beaucoup mes rêves, hein, je suis allée très loin dans mes rêves. Mais une rêveuse un peu dans les airs, comme je disais, qui n'était pas forcément consciente des réalités. Et je m'amuse toujours à dire que je suis devenue une créatrice des rêves enracinée. Parce que créer un rêve, ça nécessite beaucoup de cadres.
Bien
il
sûr.
Faut appeler, faut être très rigoureux. C'est des choses très très. Alors qu'on imagine un rêveur dans les airs, qui est dans les
côté
nuages.
Côté perché, ce que tu disais. Voilà. J'étais une rêveuse perchée.
Et en fait, créatrice de rêves, le métier, c'est maintenant il faut. Voilà, demain on a un rêve, un très beau rêve qui pourrait avoir lieu. On croise les doigts. C'est beaucoup de, c'est chef de projet quoi. Tac tac tac. Qui, quand, comment, pour. Être fait clochette, faut être
d'accord.
Avoir de belles racines.
Ok.
Et comment tu dernière question par rapport à ce sujet, c'est que comme disait Myriam, il y a sûrement quelque chose qui t'a appelé, mais il y a aussi les rapports à la mort, parce que réaliser des rêves c'est une chose, mais réaliser les derniers rêves, c'en est un autre.
Alors c'est vrai que c'est intéressant ta question est très pertinente, surtout parce que je suis quelqu'un très très émotif, très sensible, et beaucoup de gens me posent la question, mais comment tu peux être amené à faire des rêves de personnes qui vont décéder très rapidement. Alors ça, c'est assez incroyable, c'est que je pense que j'ai cette force en moi qui fait que ça ne me perturbe pas, et au contraire, c'est plutôt positif. J'aime en fait être cette bulle de bonheur. Et puis nous, on est vraiment là comme une bulle, c'est-à-dire qu'on arrive, on fait le rêve et on garde pas contact. C'est ce moment-là. Donc ça nous protège aussi.
Oui, hein, c'est ça. Oui, ça c'est une question que qu'on allait te poser parce que forcément.
On se protège comme ça.
Bien sûr.
Après, on a aussi une psychothérapeute hein, dans la une psychologue qui épaule aussi les créateurs de rêves et puis les.
Mais t'es confrontée à la mort, Clara. C'est ça aussi le déclic.
Oui. Ouais. Alors je suis confrontée à la mort. Oui. Pas mal de fois. La première fois, c'est quand j'ai une grande amie qui a réalisé son rêve, Agnès Michel, qui était partie à la rencontre des entrepreneurs sociaux et solidaires avec son association Hello Change et son compagnon Florent. Et ils étaient au Népal. Et il y a eu un tremblement de terre très 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 important en 2015. Et la montagne s'effondrait sur eux. Ils étaient à Langtang. Le village a été complètement rasé. Lui a survécu et pas elle. Et c'était, je pense, peut-être le premier déclencheur. Et ensuite, j'ai une autre amie au Vietnam qui, elle-même aussi, faisait des choses incroyables, qui était une personnalité solaire, comme Agnès, toutes les deux, et qui est décédée dans un accident de voiture. Voilà. Puis plus récemment encore, une bénévole qui était devenue une grande amie, Maria, qui est décédée d'un cancer. il y a quelques mois. Et je pense que on pourrait être plombé hein, par ces décès, et je l'ai été hein, très clairement. Mais alors, on y croit, on n'y croit pas. Moi, j'y crois pas mal. Je pense qu'une partie d'elle est venue en moi, et notamment Agnès, qui était une, je vous en parlais, assez solaire et assez incroyable, qui était déjà beaucoup tournée dans l'associatif, tout ça. Je pense que j'ai j'ai peut-être une petite part d'elle qui est venue et qui fait que j'ai eu envie, comme elle, de soulever des montagnes et être prête à travailler dans cet univers-là sans en avoir peur au final, parce que j'étais confrontée au décès, donc
oui, c'est ça. Et donc à la valeur de la vie, à la préciosité de la vie, en
exactement
fait.
Voilà.
Et oui, ouais. Et oui. Que dire?
Eh ben, écoute, on va faire en tout cas une deuxième.
On va faire une pause, ouais. Ouais, je suis un peu perturbée.
Beaucoup d'émotions.
Bah oui, parce que je trouve ça tellement touchant d'être, voilà, confrontée à des événements tragiques et de réussir à en faire quelque chose de beau. Moi, je trouve ça hyper fort. Merci beaucoup, Clara. C'est le moment de faire donc une deuxième pause musicale. À tout de suite.
Maybe I'm foolish, maybe I'm blind, thinking I can see through this and see what's behind. Got no way to prove it, so maybe I'm lying. But I'm only human after all, I'm only human after all. Don't put your blame on me, don't put your blame on me. Take a look in the mirror, what do you see? You see it clearer, or are you deceived in what you believe? 'Cause I'm only human after all, and you're only human after all. Don't put the blame on me, don't put your blame on me. Some people got the real problems, some people out of love, some people think I so long, Lord, heavens above. I'm only human after all, I'm only human after all. Don't put the blame on me, don't put the blame on me. Don't ask my opinion, don't ask me to lie, and beg for forgiveness for making you cry, for making you cry. 'Cause I'm only human after all, I'm only human after all. Don't put your blame on me, don't put the blame on me. Oh, some people got the real problems, some people out of love, some people think I can solve them. I'm only human after all, I'm only human after all. Don't put the blame on me, don't put the blame on me. I'm only human, I do what I can, I'm just a man, I do what I can. Don't put the blame on me, don't put your blame on me.
Vous écoutez IDFM Radio sur le 98 FM.
Vous êtes sur IDFM Radio et aujourd'hui, dans l'émission Femmes en Lumière, Clara Brachet, cofondatrice et déléguée générale de Ambulance des Rêves, est notre femme en lumière du jour. Alors Clara, donc tu nous disais avant la pause que donc ces événements tragiques, difficiles, vécus, t'avais réussi à, enfin tu avais décidé, peut-être finalement, c'est peut-être aussi un choix, de se dire, ben voilà, je choisis de leur rendre hommage, de rendre hommage aussi à des personnes qui nous sont chères, en célébrant la vie, ce qu'il reste de vie. Et c'est ça qu'on a trouvé hyper fort avec Laetitia dans cette initiative. Voilà. Et du coup, comment ça se passe une fois que les rêves sont réalisés? Parce que tu nous disais tout à l'heure, vous coupez complètement, vous... Pas de nouvelles du tout.
Moi, je peux en avoir par les médecins, mais à moins que mes bénévoles me demandent, je donne pas de nouvelles. En fait, on est là, on est sur cette bulle de bonheur, c'est une parenthèse, c'est un moment de répit, et c'est aussi une manière de protéger les bénévoles.
C'est ça.
Parce qu'il y a aussi des très belles associations qui viennent tous les jours, l'association Les Aidants, Gelmaf, tout ça, qui font un excellent travail et qui sont là pour ça. C'est pas notre expertise, c'est pas notre cœur de métier. On va dire. D'accord. Et donc nous, on est vraiment sur ce moment-là.
Donc vous n'êtes pas forcément au courant quand le rêveur décède ou voilà, vous avez pas. Voilà,
je peux avoir l'information.
C'est l'instant présent,
ou ne pas l'avoir. Ouais, exactement.
Vous vivez le moment présent, vous leur apportez cette bulle de bonheur et c'est tout ce qui compte. Et alors justement, j'imagine que tu dois avoir des anecdotes assez magnifiques. Il y en a une peut-être que tu pourrais partager avec nous. Quel a été le rêve qui t'a le plus touché, toi?
Ah, oh, écoute, on a eu tellement.
Ouais, je sais qu'elle est nulle. Elle est difficile, cette question.
Je pense qu'il y a des rêves. Il y en a deux, on va dire. Il y en a un parce qu'il était grandiose et il était très récent et beaucoup de gens l'ont vu d'ailleurs passer.
Je sais de quoi tu vas parler.
Mais un autre qui était tout simple, moi, c'était une dame qui voulait aller juste dans un parc, donc on l'a emmenée dans un très beau parc et elle est allée avec son mari et son fils et il y avait, je crois, un peu des tensions
dans la famille.
Et j'ai cru comprendre que ce moment hors de l'hôpital avait pu se dire des choses comme ça. Et si déjà on peut permettre ça, même si encore une fois, les hôpitaux font un travail absolument incroyable et le service en palliatif. Enfin, moi, je suis très admirative du travail des équipes soignantes. Mais c'est vrai que c'est peut-être le côté hors hôpital a peut-être aidé à avoir ces conversations, à libérer ces choses-là. Donc ça, c'est un grand souvenir. Et puis
le fameux pompier, peut-être. Voilà. Alors qui a fait quand même 1 million de vues.
Plus d'un million de vues.
Sur les réseaux. Quoi, hein.
C'est pas nous qui l'avons posté en premier. C'est les pompiers et ça a été relayé. Et c'était un rêve qui était venu par un établissement hospitalier le lundi et le rêve s'est réalisé le jeudi.
Oh, incroyable. Ouais,
c'était assez rapide. Mais après, en fait, la beauté du rêve, c'est que moi, ce qu'on ressent beaucoup dans les rêves, c'est que c'est l'amour des proches, et c'est ça qu'on a à cœur de protéger, puis de qu'ils aient ce moment-là, et que le rêveur et la rêveuse puissent aussi ressentir tout ça.
Donc là,
et dans le rêve du pompier, en fait, ce qui est très très fort, c'est que on a amené l'ambulance. Alors déjà, ils ont fait une espèce de cortège incroyable pour arriver jusqu'à la caserne, parce que le rêve de ce pompier, Yann, c'était d'avoir son pot de départ, durant lequel lui était remis son casque de pompier. Il était pompier depuis plus de 15 ans.
Avec ses anciens collègues.
Voilà.
Il voulait faire son pot de départ.
Exactement. Voilà. Sauf que les collègues, ils ont pas fait ça et ils étaient plus de 200, je pense, à l'accueillir les pompiers, les camions, c'était complètement dingue. Je vous invite à regarder sur les réseaux sociaux.
J'ai vu l'aide d'honneur.
Et c'était très très beau parce qu'il a pris tellement d'amour.
Un shoot d'amour pendant
cette journée qu'il a fait un bien fou. Et son ami me l'a dit le soir même. C'était vraiment. Et c'est pour ça qu'on existe en fait. Ouais. C'est vraiment ces moments durs. Voilà, je pense qu'on est là pour ça.
Ben oui, ça fait tout son sens et justement, ben voilà, hein, tu vois, on est bien évidemment pas les seuls à trouver tout ça tellement inspirant puisque, tu as participé, Clara, le 25 novembre dernier à ton premier TEDx, ton TED Talk comme on dit. La classe, félicitations, franchement, quand même.
C'était un beau challenge.
Donc ouais, carrément. Alors justement, voilà, comment tu te retrouves déjà sur cette scène et puis
Alors ça, parce que ça, il y avait une thématique, hein, donc c'était au thème
Dreamers,
la Rochelle, ouais, et c'était The Dreamers. Yeah. Ah bah ça tombait bien, là, oui, forcément.
C'était assez, oui, ça tombait.
Donc, je traduis pour ceux qui comprennent mal l'anglais, les rêveurs.
Les rêveurs, exactement. Les rêveurs et bah, l'histoire est assez incroyable. C'est toujours une, moi je crois beaucoup en l'univers qui t'envoie les trucs au moment où. Où ça doit venir. Et en fait, j'ai une amie que j'avais rencontrée par le biais de Make-A-Wish France qui avec qui on échange par tel. Je raconte un petit peu le projet d'Ambulance des Rêves. Elle trouve ça top. Elle me dit, ben si tu veux, je vais le partager sur LinkedIn. Je trouve que ce que vous faites est vraiment bien. Donc, elle parle un peu de moi et d'Ambulance des Rêves. Et là, Victoria, une des coordinatrices du TEDx La Rochelle et coach, voit, est une amie de cette amie, et voit le post. Et là, m'envoie un message en disant, bon, Clara, je pense qu'il y a quelque chose à jouer parce qu'on est en train de chercher des speakers pour le TEDx de La Rochelle. Wow. Alors, il faut savoir que moi, je connaissais les TEDx, mais j'ai jamais été voir. Voilà, donc ouais. je connaissais, mais je pense que si j'étais allée voir, j'aurais peut-être pas dit oui aussi facilement. Parce que c'est quand même impressionnant.
Oui, parfois, c'est mieux de pas savoir où on met les pieds, voilà. En fait. Hein.
Et alors, comment tu t'es préparée et comment tu as vécu cette expérience?
Alors, on a eu beaucoup de chance parce que je crois que tous les TEDx sont pas les mêmes. Le fonctionnement n'est pas les mêmes. Et là, la particularité de La Rochelle, c'est qu'on a un bon suivi. Et alors déjà, j'ai dû faire une petite vidéo explicative de mon pseudo sujet. Enfin, j'ai parlé d'Ambulance des Rêves. Donc là, j'étais retenue parce qu'il y avait plusieurs
sélections.
Voilà, il y a une sélection. Et ensuite, ils nous ont convié à un week-end, donc il y a 2 mois et quelques, à La Rochelle, pour nous préparer. Avec des coachs, plein de bénévoles qui...
Donc pendant tout un week-end.
Pendant tout un week-end.
Donc vous êtes tous les speakers.
On était 14 speakers.
14 quand même.
13 ou 14. Parce que, et au final, on a plein d'ateliers sur le stress, l'impro. Je peux donner l'exemple. Moi, j'étais séchée, c'était hyper rigolo. C'était tout d'un coup, ils te donnent un sujet. Donc là, c'était par exemple, bon bah là, Myriam, donc ça te donne frontières. Vas-y, 3 minutes. Devant 20 personnes.
De quoi frontière?
Frontière.
Tu parles sur
les frontières pendant, voilà, 3 minutes.
Ah, génial!
Pour te rendre compte aussi que tu peux te rebondir si jamais aussi tu perds ton fil.
D'accord.
Aussi sur l'écriture de texte, une approche aussi là-dessus. Et, ensuite, on a eu nos coachs. Et moi, j'ai eu donc, celle qui m'avait, contactée, qui est devenue ma coach, une coach de cœur, parce que ouais, c'est une très très belle personne et j'ai très heureuse de la rencontrer. Et ensuite, on est partis tous. Et là, il fallait qu'on écrive notre talk. On avait 2 mois. Et donc, on avait une heure par semaine. J'avais un coaching avec Victoria.
Ouais, quand même, c'est une sacrée.
Alors, pour ceux qui nous écoutent, parce que tout le monde ne sait pas forcément ce que c'est qu'un TEDx.
Oui, c'est vrai.
Est-ce que tu pourrais nous expliquer ce que c'est et en quoi ça consiste?
Alors, ce n'est pas une conférence. Ce sont des personnes qui sont un peu comme toi et moi. Hein, ça peut être moi la première, voilà. Qui sont conviées en fait à raconter leur parcours ça va être des parcours qui peuvent être justement un peu intrigants ou qui sortent de l'ordinaire,
inspirants, c'est des témoignages.
C'est des témoignages
finalement.
Exactement et qui vont faire réfléchir aussi le public dans la salle. Et c'est assez vraiment incroyable.
Hein. Et alors qui vient comme public?
Écoute, il y a de tout. Il y avait 800 personnes.
Moi, je suis abonnée.
Ouais, voilà.
Enfin, tu vois, moi, je reçois.
Tu peux s'abonner au TEDx.
La newsletter,
exactement.
On prévient quand il y a des.
Et c'est vraiment, tu sors de là très enrichi parce que t'apprends beaucoup de choses.
Ouais.
En fait.
Et puis ce qu'on peut préciser aussi, c'est que en fait, peut-être pour rassurer aussi les gens qui voudraient découvrir, parce que t'as parlé de conférences et c'est vrai que ça pourrait être assimilé à ça. En fait, c'est des formats très courts. Hein.
Oui.
Ça dure un quart d'heure.
C'est ça. C'est un quart d'heure.
Fois, hein,
voilà.
Alors, est-ce que tu as des prompteurs tu apprends ton texte et tu fais le show pendant 14 minutes.
Tu l'apprends par cœur, vraiment?
Oui. Alors, certains vont pas l'apprendre par cœur. Ouais. Moi, j'ai choisi de l'apprendre par cœur pour être à l'aise, potentiellement en dévier, mais avoir ma trame.
D'accord.
Parce que j'avais des messages un peu clés que je voulais vraiment, j'avais à cœur de partager. Et ensuite, chacun fait comme il souhaite. Hein. Moi, j'étais plus à l'aise sur le par cœur, mais il faut poser ta voix, il faut ne pas bouger. Tu as le micro qui est un
micro-casque,
qui n'est pas un micro comme on a l'habitude d'avoir. Donc, c'est perturbant aussi parce qu'il y a rien dans les mains.
Voilà.
Donc il faut savoir où mettre ses mains.
Voilà, voilà.
Et donc
là, ça, vous êtes coaché pour ça.
On est coaché pour ça. Voilà. Et puis on a eu des coachs. L'équipe était formidable.
Ouais. C'était,
le voyage était. J'ai adoré le moment.
Ouais, c'est ça.
Mais le voyage pour arriver au moment, c'était aussi important pour moi.
Ouais, c'est 2 mois, c'est pas rien. T'as dû en apprendre aussi beaucoup sur toi.
J'ai fait une thérapie, j'ai l'impression, vraiment, parce que tu poses, pas forcément, faut écrire. Donc, moi, la question que je me posais, c'est, je pouvais parler d'ambulance des rêves avec 15 minutes, je pouvais en parler largement. Mais finalement, en tirant le fil avec Victoria, je me suis rendu compte que mon parcours était aussi dans les rêves et que pouvait être pertinent d'adresser mon parcours, enfin le sujet de mon parcours, et de remettre Ambulance des rêves sous le prisme de ce
de raconter ton histoire.
Mais c'est ça, hein, parce que pour tout dire, en fait, hein, Clara, hein, on s'est contacté en début 2025, Et à ce moment-là, quand je te posais les questions, les liens, les connexions, tu les faisais pas toi-même. Je crois que t'avais même pas conscience, hein, en fait, de toutes les implications profondes.
C'était durant le parcours, en fait, Teto, que j'ai TEDx, que j'ai vraiment pris conscience de pourquoi finalement j'en étais là aujourd'hui et j'en parle dans mon talk
Et du côté tellement cohérent finalement.
Voilà, hein. C'est très cohérent.
Voilà, c'est ça.
Très très cohérent.
Et là, est-ce que tu le referais?
Tu me donnes un petit peu de temps. c'est toujours le truc de se dire est-ce que ça intéresse encore. Ce qui était super, c'est que j'avais à cœur, et c'était mon objectif, c'était de prendre du plaisir sur scène et d'incarner ce que je racontais, de pas être dans le...
Ah, moi, tu m'as fait pleurer, hein.
Ah, ouais.
Ah, non, mais vraiment, enfin. mais c'était beau.
C'était ça, en fait. C'était transmettre. Ouais, j'adore. Et je pense que là, j'étais au bout de quelque chose. Alors, peut-être que dans 10 ans, j'aurais vécu autre chose et je pourrais peut-être raconter une autre histoire ou mon histoire encore. Mais là, voilà, je pense que j'ai une boucle qui est un peu bouclée dans le sens où et ça m'a fait du bien aussi. Et j'étais j'étais fière de moi, ce qui voilà.
Ah bah toi, là tu peux carrément. Si on veut t'écouter, si on veut écouter ce TED, donc c'est dispo sur YouTube, Dreamers TED La Rochelle, c'est ça?
Il est encore dispo, je crois. Il va pas tarder. Je pense que dans une semaine ou deux, c'était je crois un mois, donc je l'ai pas encore.
Donc fin décembre.
Et sur la plateforme TED mondiale, je crois que je serai dessus et probablement aussi sur YouTube, effectivement.
Ouais. D'accord.
Okay. Bon, on mettra le lien dans la présentation, comme ça, si des personnes veulent t'écouter et découvrir ce que c'est qu'un TEDx, c'est surtout découvrir aussi ta présentation sous forme de show, de woman show, un petit peu.
Il y a une vraie préparation.
14 minutes, on mettra le lien pour que tout le monde nous écoute. Merci beaucoup, Clara. On fait une dernière pause musicale et on se retrouve juste après pour l'interview Confidence Spotlight. À tout de suite.
Dicen que si vieras pasar a tu lado la muerte, en la Mercedes, la que se alarga, te da buena suerte. Todos habéis venido hasta mis enemigos, hoy llora. Tírame magnolias, tírame magnolias, tírame magnolias, tírame magnolias. Sobre mi ataúd, catemes quemando rueda, lágrimas y gomas se derriten la madera. Gasolina y vino tinto, puros y chocolate, bailando con amor encima de mi cadáver. Hoy se derrocha, volando la suerte, en lo que no hice en mí. Llevado de la
vida. Ella a mí me desarmó y yo le estoy agradecida. Y lanzará azúcar moreno sobre mi ataúd. Quedaros despiertos hasta que vuelva otra vez la luz. Promete que me protegerás a mí y a mi nombre, mi ausencia. Yo que vengo de las estrellas, hoy me convierto en polvo para volver con...
IDFM Radio, par nous, pour nous.
Nous sommes de retour sur IDFM Radio dans l'émission Femmes en Lumière. Et avec nous, Clara Brachet, cofondatrice et déléguée générale de l'Ambulance des Rêves. Et Clara va se prêter dans quelques instants à l'interview Spotlight. Clara, es-tu prête ?
Écoute, oui.
Alors, c'est parti.
Je stresse monte.
Si tu devais repartir vivre dans un autre pays, où est-ce que tu irais ?
Argentine.
Wow, ok, gros pays de cœur.
En définitive, même pas une demi-seconde de réflexion, quoi.
Est-ce que tu y retournes récemment ou de temps en temps? Comment ça
se
passe?
Non, j'ai pas été depuis 2010, donc ça fait longtemps. Là, ça commence à me...
À titiller,
ouais. J'aimerais bien y retourner pour un voyage. S'y installer, c'est complexe.
D'accord.
La conjoncture est toujours très difficile.
Ah oui, mais si la conjoncture était correcte, c'est un truc que t'envisagerais.
Je serais là-bas.
C'est pas vrai.
Ah oui, je serais là-bas.
C'est fou. Ouais. Et alors, tu y retournerais seule ou avec la famille ?
Avec la famille, ouais.
Ouais, faire découvrir à la petite choupette.
Ouais.
Trop bien. Et alors, dis-moi, deuxième question. Qu'as-tu compris récemment sur toi que tu aurais aimé peut-être découvrir plus tôt ?
Alors, c'est intéressant comme question. Je pense qu'Ambulance des Rêves, le TEDx, tout ce qu'on est en train de vivre au travers d'Ambulance des Rêves aussi, on parlait de confiance en soi, d'être capable, en fait. On a toujours un peu ce plafond de verre, de se dire on n'y arrivera pas, tout ça. Et là, je me dis, comme je disais, je viens de fêter les 42 ans, et waouh, si on m'avait dit il y a 3 ans qu'on en serait là, ce qu'on a monté, ce qu'on a réussi à faire, on a fait avancer l'association, et ce que j'ai pu accomplir, je pense que j'aurais, à moi d'avant, je disais, tu te rends pas compte de ce que tu es capable de faire.
Ouais.
Peut-être ça. Tu pourras faire de grandes choses. Et tu peux faire de grandes choses, mais j'ai peut-être attendu un peu, enfin, j'ai...
T'en as pas pris conscience
avant. Non, j'en ai pas pris conscience avant. Là, je me dis, et j'assume, ouais, je suis fière de moi, et c'est top, et je suis heureuse de là où j'en suis,
Et tu peux.
C'est cadeau, quoi.
Ouais, tu peux, carrément. Justement, en parlant de confiance et d'assumer quel est ton super pouvoir inutile que tu assumes totalement inutile, du coup?
Et tu l'assumes, hein? Un pouvoir
inutile,
tu sais faire.
Un truc qui sert à rien.
Je connais très très bien les marques des voitures.
Voilà.
J'adore.
Je ne sais pas. Alors, pardon, des années 2000, hein, 90, parce que j'avais plus jeune, j'adorais Autopus, tout ça, et je regardais.
Dimanche matin, non?
Oui, voilà. C'était, et puis le journal, tu vois, ton magazine, tout ça. Non, c'était, oui, vraiment, ça ne sert à rien. Je
moi, d'accord.
Parce que je suis moins, mais l'actualité des voitures. Non, ça ne sert à rien.
Voilà, ok. Bon, bah voilà, super pouvoir. Tu sais, déchiffrer les logos, hein, c'est ça?
Et puis je te donne le nom de la marque, là.
La marque, le modèle.
Ouais, oui, c'est
trop forte. Très bien. Clara, comment dit-on merci en vietnamien?
Oh, tu me fais pas faire ça avec l'accent.
Bon, avec ou sans l'accent.
Mais si, c'est ça le
come
super.
Come on.
Comment tu
come
dis?
On. Come on. Et là, j'ai mes potes vietnamiens qui vont dire
on va
t'en prendre bouillabaisse.
Bon, ça marche. Et alors, si demain, tu pouvais transmettre une seule conviction au plus grand nombre, laquelle tu choisirais?
Que je pense, enfin, l'importance des petites choses simples qu'on réalise tous les jours et de se rendre compte que tout ça c'est précieux en fait, ces petits moments, ces dîners entre amis, ces petits moments partagés et de profiter de ça.
Donc, les vivre en conscience.
En conscience, hein, voilà.
C'est ça surtout.
Tous ces moments-là.
C'est un peu la conviction. C'est
ça. Ouais.
Soyons conscients de ces moments précieux.
C'est ça. Là, je sais que je retrouve des amis demain. Et je me dis, je suis chanceuse. Je vais les retrouver. Ouais. On va se faire un dîner. Enfin, pas demain, parce que après-demain. Et Et c'est génial, ouais. C'est magique.
Ben voilà, prendre conscience de ça. Alors moi, tu vois, il y a une chose que tu as dite dans le TED qui m'a émue aux larmes. Tu as dit quand il ne reste plus que l'urgence de vivre, l'essentiel c'est d'être entouré d'amour.
C'est ça.
Et ben voilà, moi je trouve
l'amour simple, petite chose de la vie.
Voilà. On a mis tellement.
Ouais. Merci beaucoup en tout cas Clara d'avoir joué le jeu de ces confidences. Notre émission touche à sa fin, mais avant de la clôturer, j'aurais une dernière question. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à cette femme lumineuse que tu es ?
Écoute, continuer sur cette belle lancée. Voilà, continuer en conscience et enraciner, toujours enraciner.
Ouais. Bah écoute, bon, là, 2026, je 2026 approche.
Les racines ont pris. En tout cas, merci infiniment, Clara, pour ce partage tellement plein d'humanité qui nous ramène à notre humanité aussi. Voilà. On trouve ça vraiment magnifique ce que vous faites. On te souhaite le meilleur, bien évidemment, pour la suite, un maximum de rêves réalisés. Notre émission se termine. Un grand merci à nos éditeurs et auditrices de nous avoir accompagnés. Et on se retrouve sur IDFM Radio dans l'émission Femmes en Lumière, mardi prochain de 18h à 19h, en compagnie d'une nouvelle femme inspirante. En attendant, vous pouvez retrouver l'interview d'aujourd'hui en podcast sur le site d'idfmradio.fr, sur l'Instagram des Femmes en Lumière et sur notre chaîne YouTube. Encore merci infiniment Clara.
Merci à vous.
À bientôt,
merci.
À la semaine prochaine.
En Ile-de-France, vous écoutez IDFM Radio sur le 98FM et en DAB+.
Bonjour, c'est Christelle. Je vous invite à découvrir Les Secrets de la Servante, votre nouvelle émission culture sur IDFM Radio. Quand la salle de spectacle se vide et que le théâtre s'endort, saviez-vous qu'il reste une petite lumière qui brille ? C'est celle de la servante. Elle veille, surveille, jusqu'au prochain réveil. Dans cette émission, nous donnons la parole à celles et ceux qui, dans l'ombre comme dans la lumière, font vivre la culture. Artistes, auteurs, techniciens, experts ou acteurs du secteur. Chaque semaine, la servante nous livre ses secrets, éclaire l'actualité et anime les coulisses du spectacle vivant. Alors rendez-vous tous les samedis à 16h sur IDFM Radio.
Bonjour, c'est Didier Delattre. Chaque semaine, je vous donne rendez-vous à la découverte de personnalités du Val-d'Oise, car j'aime leur richesse, leurs projets, leur engagement. Rendez-vous le jeudi à 18h, rediffusion le dimanche à 10h30 sur IDFM Radio et dans notre rendez-vous compte, évidemment.
Bonjour, retrouvez-nous sur IDFM Radio tous les vendredis de 18h à 19h avec toute la culture que j'aime.
toute la culture que j'aime. C'est votre rendez-vous avec Marie-Laure
et Agnès
en alternance le vendredi de 18h à 19h. Nous partagerons nos coups de cœur,
théâtre, littérature, musique, sorties.
Toute la culture que j'aime, c'est le vendredi de 18h à 19h sur IDFM Radio.
Vous avez des questions d'ordre juridique ? Les avocats du barreau du Val d'Oise y répondent dans l'émission Tous les droits, le premier lundi de chaque mois, de 9h30 à 11h sur IDFM Radio. Envoyez votre question à l'adresse tldidfm@gmail.com et nous y répondrons à l'antenne.